La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'écrivaine Georgia Marlouf pour Le goût du Liban, paru aux éditions du Mercure de France. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Georgia Marlouf, votre livre est publié dans une très belle collection de poches qui regroupe des anthologies littéraires consacrées à des villes, des régions, des pays ou à d'autres thèmes. Vous avez d'ailleurs publié il y a quelques mois Le goût d'Haïti, un autre de vos pays de cœur. Mais parlons d'abord de ce nouveau livre. Dans la préface, Georgia Marlouf, vous faites référence à l'actualité des années 2020 et 2021, la double explosion du port de Beyrouth et la crise économique et sociale sans précédent que connaît le Liban. Vous avez voulu par ce livre montrer la part lumineuse du Liban au moment où il est plutôt plongé dans les ténèbres.
Alors Loïc, en réalité ce projet a été mis en branle début 2019 parce que il y avait un intérêt, je dirais, autour de la date de 2020, de septembre 2020, puisque ça représentait les 100 ans de l'existence du Grand Liban. On sait que le Grand Liban était créé donc en 1920 sous l'égide de la puissance mandataire française. Et donc c'était quand même les 100 ans de l'existence de ce pays dans ses frontières actuelles, et l'éditeur avait pensé que ce serait bien qu'il y ait un livre qui accompagne les différentes manifestations qui ne manqueraient pas d'être organisées à cette occasion. Sauf que donc moi je devais avoir fini disons le dernier trimestre de 2019, donc j'ai commencé à travailler, et puis déjà octobre 2019 il y a eu des bouleversements. D'abord ce qu'on a appelé la Thawra, la révolution, en tout cas le soulèvement populaire très suivi au Liban, mais malheureusement ce soulèvement s'est accompagné aussi d'une crise économique qui a commencé par une crise bancaire, puisque c'est la même période à peu près où les banques libanaises ont mis un arrêt à l'accès des Libanais à leurs comptes. Donc la situation était assez brumeuse, chaotique, mais en même temps pleine d'espoir. Et encore, pendant un certain nombre de mois. Mais au fil de l'année 2020, les choses se sont détériorées, et puis il y a eu cette terrible explosion au port de Beyrouth. Et du coup, déjà de début 2020, l'éditeur a mis le projet un peu en stand-by. Et moi, je me suis employée, à les convaincre au cours de l'année 2021 que bien que les choses ne s'étaient malheureusement pas du tout améliorées, ce serait quand même un geste très fort de sortir ce livre dans des conditions absolument désespérantes, même tragiques au Liban, mais que ce serait, comme vous l'avez dit exactement Loïc, faire quand même la part lumineuse du Liban, je dirais, la faire entendre, la donner à voir et à sentir, tout en sachant que effectivement la vocation première de ces ouvrages qui étaient des guides de voyage ne serait probablement pas la vocation première de ce livre, mais ce serait refaire découvrir ce Liban à la fois symbolique, réel, imaginaire, fictif, qui a tellement enflammé l'imaginaire de tas d'auteurs, quoi.
J'ai trouvé très beau le choix du Cantique des Cantiques, un des plus beaux textes de l'Ancien Testament, car on l'oublie parfois, le Liban est une terre biblique, et c'est une histoire d'amour où l'on entend ces vers, où l'on lit ces vers, « Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi ».
Alors oui, c'est un texte que effectivement les Libanais aiment beaucoup, parce que comme vous le dites, d'abord ça montre la longévité. Je dirais que c'est un vieux pays, c'est un pays donc qui est mentionné dans la Bible, effectivement, et c'est un texte que les Libanais aiment beaucoup. C'est un chant d'amour, c'est un chant d'amour qui a inspiré d'ailleurs beaucoup d'autres écrivains plus contemporains. Alors, l'origine de ce texte, il y a des controverses. Est-ce que c'est vraiment un texte, je dirais, religieux, ou est-ce qu'il avait une dimension profane? Alors, toutes les interprétations sont possibles, mais effectivement, c'est un très beau texte où on parle du Liban comme d'un jardin d'Éden, un pays de lait et de miel, un pays d'amour, finalement. Et donc, cette alliance entre l'amour et le Liban et la longévité, je dirais, absolue de ce pays sont aussi des choses vraiment qui donnent beaucoup à espérer, on va dire. Puisque ce pays est si ancien, c'est qu'il ne peut pas disparaître.
Georgia Marlouf, bien sûr, dans ce livre, vous publiez des extraits d'œuvres composées par des écrivains et poètes libanais, on va en parler. Mais le Liban a beaucoup inspiré aussi les écrivains français du 19e et du 20e siècle, notamment, je pense à Lamartine, qui a publié Un voyage en Orient, qui évoque le Liban. Mais c'est à Beyrouth aussi, malheureusement, qu'il perdra sa fille, Julia, atteinte de tuberculose.
Oui, oui. Alors, vous savez que les écrivains romantiques ont eu un grand amour de l'Orient sur lequel ils ont fantasmé. D'ailleurs, c'est un Orient beaucoup plus rêvé que réel. Mais certains d'entre eux ont quand même entrepris le voyage. On appelait ça le grand tour au 19e siècle parce que c'était aussi quelque chose qu'on faisait pour aller découvrir le monde. C'était assez ritualisé même. Il y avait des étapes qui en Terre Sainte souvent, parfois en Grèce, en Turquie. Et puis bien sûr, le Liban a je dirais, accueilli beaucoup de ces voyageurs. Alors Lamartine est l'un d'eux. Et il a beaucoup aimé ce pays, même s'il y a vécu effectivement des choses très douloureuses, puisque c'est là. En fait, il espérait que le climat du Liban guérirait sa fille qui était déjà malade. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc il y a quand même séjourné, et puis il y a une vallée au Liban, très chère au cœur de Lamartine, qu'on appelle encore aujourd'hui la vallée de Lamartine. En fait, c'est la vallée de Hammam, hein, qui est une très belle vallée, qu'il affectionnait beaucoup. Mais il y a d'autres écrivains romantiques, il y a Gérard de Nerval, qui a aussi beaucoup écrit sur l'Orient. Alors Gérard de Nerval s'imaginait même se marier avec une Libanaise, ou en tout cas une femme orientale. Il fantasmait beaucoup sur ces belles femmes qu'il apercevait parfois dans les marchés ou au port ou que sais-je. Et il a écrit des textes dans lesquels il mêle habilement d'ailleurs le réel et la fiction.
Georgia Marlouf, il y a plusieurs femmes incontournables dans votre anthologie. Oda Barakat, Hanan Elcher, Dominique Hédé, Nadia Twini, Vénus Kourigata, l'artiste Etel Adnan et deux autrices que je découvre grâce à vous, Aïda Kanafanizar et Aurélie Carton. En 125 pages, il est évidemment impossible d'être exhaustif et vous avez certainement dû renoncer à des textes qui auraient pu figurer dans ce livre. Qu'est-ce qui a guidé vos choix ?
Alors, comme vous le dites, Loïc, c'est un exercice d'équilibrisme, ce genre d'ouvrage. De toute façon, en général, ce qui est le plus dur, c'est plutôt de renoncer. Parce que quand on connaît un pays, qu'on connaît un peu sa littérature, ou même, puisque ce n'est pas vraiment une anthologie littéraire, c'est plutôt une anthologie sur le pays. Au départ, vous savez, cette collection, vous le savez, parce que je crois que vous avez contribué à des ouvrages de la collection, l'objectif est de faire découvrir le pays au travers de textes littéraires. Donc, on s'autorise aussi à donner la parole, bien sûr, à des écrivains qui ne sont pas libanais ou qui ne sont pas haïtiens, en l'occurrence, quand on parle du coup d'Haïti. C'est plutôt le pays qu'on essaye de mettre en évidence. Mais en général, c'est vrai que choisir est un exercice très difficile. Et moi, je dirais, dans le cas du Liban, en plus, puisque c'est mon pays, et que je connais très bien, même personnellement, beaucoup de ces écrivains, c'était extrêmement compliqué. Je ne voulais pas laisser mes amitiés personnelles prendre le dessus sur la valeur littéraire des textes. Évidemment, le premier critère, c'est la valeur littéraire des textes et le fait qu'ils donnent à voir certains aspects du Liban. Alors, j'ai essayé, effectivement, c'était, comme je vous dis, un exercice d'équilibrisme, de ne pas rester sur Beyrouth, parce que effectivement Beyrouth concentre beaucoup d'attention, mais il y a toutes sortes d'autres régions du pays qui mériteraient d'être mises en lumière. Donc j'ai essayé, je dirais, de trouver un équilibre géographique, un équilibre historique aussi, c'est-à-dire des textes anciens. On a parlé de ceux du 19e siècle, de la littérature romantique, ou de textes plus anciens comme ceux de la Bible. Mais évidemment, il y a toute une littérature très contemporaine qui parle aussi, qui se saisit aussi du Liban. Donc il y avait cette dimension-là. Au Liban, il y a, vous le savez, une littérature libanaise en français et en arabe, donc il fallait aussi leur donner de la place. Il y avait, je dirais, des hommes et des femmes. Je n'ai pas cherché à respecter cet équilibre, mais bien naturellement, j'ai voulu mettre en évidence des femmes qui avaient des œuvres puissantes vraiment sur ce pays. Je dirais que c'est à la fois un peu tous ces critères, tout en même sur le genre des textes. Il y avait la poésie, il y a évidemment le roman, il y a des essais, il y a des textes, je dirais, des fragments. Et puis le texte que vous avez mentionné de Aïda Kanafanizar, c'est carrément un texte, une étude anthropologique sur le Mézé. Et j'ai trouvé qu'elle était tellement bien écrite que effectivement la valeur littéraire était là, même si effectivement dans ce genre d'anthologie, on ne va pas sur des textes, je dirais, scientifiques. Mais ce texte-là avait le mérite d'être à la fois scientifique et avoir une qualité littéraire qui était bien évidemment le premier critère.
Georgia Mahlouf, c'est véritablement une anthologie très riche que ce goût du Liban au Mercure de France, une anthologie représentative du formidable élan créatif des Libanais. Il y a bien sûr Salah Stettié, le grand poète mort en 2020, mais aussi Amin Mahlouf, Sharif Majalani, Alexandre Najjar, Wajdi Mouawad, sans oublier Jabour Douéhi, décédé récemment. Est-ce qu'on peut parler de cet écrivain dont vous soulignez le talent à faire vivre ces personnages?
Alors oui, c'était extrêmement. D'ailleurs, on a failli, mais vous savez, pour des raisons telles, parfois il y a aussi des critères tout à fait extérieurs à la fabrication du livre qui font qu'on est obligé de renoncer à des textes. Il y a des questions budgétaires et donc vous savez que l'éditeur doit parfois payer des droits, doit même souvent payer des droits. Bref, donc à un moment donné, mon éditeur qui avait quelques difficultés m'a dit on va renoncer à un certain nombre de textes et il avait mis Jabour dans le. J'ai dit hors de question. Évidemment, Jabour nous avait pas encore quitté, ça a été très brutal ce départ, mais il était hors de question qu'il ne soit pas représenté dans cet ouvrage. Alors, Jabour est un immense écrivain qui a donné. D'abord, il a écrit un ouvrage absolument précurseur, fantastique, qui est les pluies d'automne, qui a restitué par la fiction un massacre qui avait eu lieu dans un village du Liban Nord, région que Jabour connaît très bien puisqu'il en est originaire. Et ce texte absolument magistral a été tellement intéressant parce qu'il a montré de quelle façon ce massacre qui avait eu lieu dans les années 50 était précurseur de la violence qui allait déferler sur le Liban pendant la guerre civile. Et avec une plume absolument extraordinaire et un talent effectivement pour faire revivre quelque chose qu'il avait sans doute vécu lui quand il était enfant, mais donc avec un souvenir très éloigné, mais il a essayé de redonner la voix à différents protagonistes de cette affaire, et donc c'est un texte absolument magistral. Par ailleurs, le texte que j'ai choisi ce camp, je dirais la ville de Tripoli, et dans la ville de Tripoli, un quartier qu'on appelle le quartier américain, quartier assez misérable, parce que la ville de Tripoli, bien qu'elle soit extrêmement riche sur le plan du patrimoine, de l'architecture, et puis il y a bien sûr des grandes familles de Tripoli avec de très belles demeures, il y a des quartiers très miséreux. Et c'est ce quartier assez misérable qu'il a choisi de mettre en scène, parce que dans ce quartier-là, il y a de possibles recrutements à faire pour le djihad, la guerre sainte, ou tout simplement pour des petits malfrats qui vont faire des actions un peu terroristes, on va dire. Et donc, il campe avec, je dirais, un talent assez incroyable, ce quartier de la ville, il le fait vivre, et ça devient presque un microcosme absolument universel, je veux dire, alors qu'il est très 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 ancré dans la ville de Tripoli. Et donc il y a une femme de ménage qui habite, enfin une dame, une mère de famille plutôt, qui fait des ménages dans une autre demeure bourgeoise de la ville, et on a un peu le contraste de la ville de Tripoli entre ces quartiers plus bourgeois, où on écoute de la musique d'opéra, et puis les quartiers populaires où on s'entasse à 10 ou 15 dans des demeures et où on écoute plutôt de la musique, je dirais, plus populaire, etc. Donc c'est vraiment un ouvrage absolument remarquable que j'ai choisi. Et puis j'ai aussi mentionné, parce que on a la possibilité dans les petits commentaires qui suivent les livres, de mentionner parfois d'autres œuvres qui sont intéressantes. Et là, c'est un autre texte qui est le manuscrit de Beyrouth, qui parle un petit peu de la ville de Beyrouth, qui a été longtemps une ville phare dans le domaine de l'édition, parce qu'on a longtemps dit que l'Égypte écrit, le Liban publie et l'Irak lit, ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, bref, ce n'est pas vrai, bien sûr, mais ça montre bien que Beyrouth avait un rôle très très important dans la publication de textes majeurs de la littérature arabe.
Georgia Mahlouf, je recommande aussi aux auditeurs la lecture de votre précédente anthologie consacrée à Haïti et qui s'appelle Le goût d'Haïti. Je rappelle que vous avez écrit Port-au-Prince, aller-retour, un livre qui évoque vos liens familiaux avec Haïti, un pays confronté au malheur comme le Liban. Et là aussi, c'est une alternance d'auteurs du pays que j'ai pu découvrir grâce à vous à l'occasion de cette anthologie, mais aussi d'écrivains du monde entier qui ont écrit sur Haïti. Cela va de Maria Vargas Llosa à Truman Capote, en passant par Graham Greene et Victor Hugo. J'imagine que le travail de recherche a été différent de celui que vous avez mené pour Le goût du Liban.
Alors effectivement, Loïc, d'abord, j'ai eu un immense plaisir à faire ce travail, parce que là, à la différence de l'anthologie sur le Liban, où je connaissais déjà, et j'ai déjà moi-même une bibliothèque assez riche de littérature libanaise, Haïti, je connaissais plutôt les auteurs contemporains, Lionel Trouillot, James Noël, Daniela Ferrière, bien entendu, Ted Limars, enfin voilà, tant d'autres. Il y a un bouillonnement créatif dans la littérature haïtienne qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, Yannick Lahens, qui est aussi une représentante majeure de cette littérature, a été invitée à faire un cours au Collège de France sur cette littérature et la façon dont elle permet de percevoir, je dirais, les enjeux majeurs auxquels ce pays est confronté. Donc je connaissais un peu cette littérature contemporaine, je connaissais beaucoup moins, je dirais, les pères fondateurs de la littérature haïtienne. Et là, ça a été une grande découverte, donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, mais j'ai aussi découvert des écrivains plus jeunes, moins connus probablement en France, parce que pour certains, bon, ils sont publiés par des éditeurs haïtiens qui ont d'ailleurs un énorme courage à continuer à faire un travail fantastique. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi une poésie absolument bouillonnante de créativité, d'inventivité en Haïti, et j'ai découvert la poésie que je connaissais moins. Donc ça a été un travail à la fois plutôt de découverte dans un premier temps d'auteurs que je ne connaissais pas, et puis bien sûr après de composition de cette ouvrage, avec parfois je devais être plus précautionneuse, je dirais, parce que les contextes je les connaissais moins bien, donc ça a nécessité de ma part que je m'appuie aussi sur des ouvrages, je dirais, de critiques littéraires pour mieux évaluer l'importance, je dirais, de certains textes. Mais ça a été une découverte fantastique. Et d'ailleurs, grâce à cet ouvrage, j'ai été en contact avec davantage d'écrivains haïtiens et j'ai aujourd'hui le plaisir de faire partie du petit comité éditorial de la formidable revue La Tranquillité, qui a été créée par James Noël, qui est donc un des très jeunes poètes, mais très actif sur la scène littéraire haïtienne et française.
Merci Georgia Mahlouf. Je rappelle le titre de ces deux anthologies, Le goût du Liban ainsi que Le goût d'Haïti, publiées au Mercure de France. Merci.
Merci infiniment Loïc de m'avoir donné cette occasion de présenter un peu ces deux ouvrages qui me tiennent beaucoup à cœur. Merci beaucoup.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.